L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et ce matin, Lionel, on va parler histoire avec votre invité puisqu'il a déposé les 3 tomes de son ouvrage « Une terre pour un crime » hier aux archives de la Nouvelle-Calédonie.
Bonjour Jerry Delatière.
Bonjour et merci de vos invitations.
Et merci d'être avec nous. On était effectivement ensemble hier matin aux archives de la Nouvelle-Calédonie lorsque vous avez déposé ces 3 tomes. Alors, il faut appeler ça comment ? C'est une étude ? C'est un livre ? C'est comment il faut appeler ?
Oui, on peut dire que c'est une étude. Ouais. Je pense que c'est l'étude... la plus approfondie sur un centre de colonisation pénale, en l'occurrence celui de la foi Fort-Henri, ouais. Comme on l'appelait à l'époque.
Mmh. De quoi s'agit-il exactement ? Vous avez voulu parler, mais avec vraiment beaucoup de précision, de cette région
Oui, alors j'ai l'impression de dire, Lionel, que cet ouvrage constitue la mémoire de la colonisation pénale sur le centre de la foi Fort-Henri, ouais. C'est-à-dire les actuels villages de la foi et de Farino. Mmh. C'est un ouvrage qui reprend donc toute l'historique de l'arrivée de la colonisation pénale à partir du fort Terrain-Bas, mmh. et ensuite l'extension de la pénitentiaire en application des articles 11 et 13 de la loi du 30 mai 1854, mmh. La loi qui a permis l'envoi de bagnards en Guyane et en Calédonie. Oui. Et donc les articles 11 et 13 qui prévoyaient la mise à la terre de forçats les plus méritants, mmh. Dans des centres de colonisation pénale qui restaient à créer. Mmh. Donc le premier a été Bouraille en 1967. Oui. Ensuite, La Foy par le gouverneur Gauthier de la Richerie. Mmh. À partir de 71, Terrain-Bas. 75, le centre urbain de La Foy. Et donc, à partir de ces articles-là, j'ai développé donc... l'origine, hein, l'idée de cette transportation, comment elle est née en France, jusqu'à la loi qui a été votée le 30 mai 1854, son application, les différents décrets d'application et les mises en concession, les conditions de concession et tout. Mm-hmm. Et bien sûr, les tomes 2 et 3 de l'ouvrage répertorient tous les condamnés, les 750 condamnés qui ont été mis sur ce centre entre 1875, début de la première mise en concession dans la vallée de Fort-Henri, mm-hmm. à Faucola, précisément, jusqu'à 1931, et qui est la date du décret qui déclasse la Nouvelle-Calédonie en tant que colonie pénitentiaire.
Mmh. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Parce que ça vous a pris un temps énorme pour faire ces 3 tomes, j'imagine.
Oui, bien sûr.
On ne fait ça en se levant le lundi et en disant c'est bon, vendredi, c'est terminé.
Non, c'est plus 20 ans de travail. J'ai commencé très jeune. Bon, c'est un vaste travail de compilation, de recherche, de relevé. Oui. Hein, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 27 ans, il me semble, à relever les tombes, les vieilles tombes en ferraille là, du cimetière de la Foy. Les mm-hmm. tombes, à la fois, il y a un cimetière pénal et puis il y a le reste du cimetière. Et puis ensuite, les cimetières de Farino, de Boulou-Paris, des alentours, et une partie du 4e kilomètre, puisque des gens sont en terrain ouvert. Et puis, petit à petit, en tâtonnant, en cherchant. Ce qui a beaucoup aidé dans les dernières années, c'est la numérisation des documents mm-hmm. en métropole. Oui. C'est énorme le progrès que la connaissance, les archives ont fait. Vous avez toutes les médiathèques, les bibliothèques qui numérisent maintenant beaucoup de documents dans la presse d'époque, mm-hmm. ce qui m'a permis, entre autres, de relever tous les procès d'assises de ces forçats.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Il y a une partie extrêmement intéressante, je crois que c'est dans le tome 2 d'ailleurs, où vous parlez de tous les procès d'assises des gens qui sont venus en Calédonie.
Les tomes 2 et 3... liste tous les bagnards mm-hmm. qui ont été mis en concession sur les sections de concession. Les sections, c'est des morcellements qui ont été créés autour du centre urbain de la Foy. Mm-hmm. Donc, vous avez la Foy urbaine, la Foy rurale, c'est-à-dire la route qui mène vers Tia. Ensuite, Méharé, Pira, les vallées alentours. Et à partir de 1888, Farino est un DA suite à la résurrection où il y a eu une disparition des tribus du fait de la répression. Et donc... j'ai listé ces forçats, mais j'ai voulu surtout le convoi, d'où ils étaient originaires, les départements. J'ai voulu mettre aussi les procès pour livrer une histoire authentique. On a souvent tendance à dire dans les chaumières calédoniennes que la France avait déporté ici des gens qui n'avaient pratiquement rien fait. Oui. Vous savez, un peu comme le célèbre Jean Valjean de Victor Hugo dans Les Misérables, oui. Qui a été condamné pour le vol d'une croûte de pain. Or, c'est pas ça. La réalité historique, elle est beaucoup plus dure, beaucoup plus atroce. Oui. Ces gens-là, c'était des grands criminels. Il y a eu, bien sûr, à la marge, des crimes passionnels. Hein, un forçat qui est tombé sur son épouse avec son amant, qu'il tue d'un malheureux coup, voilà, il y a eu ça, mais vraiment à la marge. Mais la majeure partie, c'était des grands criminels et beaucoup pour des crimes de sang, des crimes souvent horribles et sordides.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on se documente sur un bagnard et qu'on qu'on voit finalement sa vie défiler sous ses yeux. Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous avez un peu de compassion pour ces gens-là ou au contraire, vous arrivez à les détester ou à vous dire, voilà, enfin, comment est-ce qu'on perçoit les choses ?
J'ai fait dans le domaine, notamment, j'ai surtout fait une étude sociologique.
Oui.
Aussi, hein, c'est-à-dire, quelle était la moyenne d'âge de ces forçats, mm-hmm. ces 29 ans en général, d'où venaient, de quel milieu social ? Mm-hmm. C'est souvent un milieu prolétaire, un milieu ouvrier, donc le petit peuple.
Oui.
Hein, c'est des gens de la campagne, des gens des banlieues, des quartiers populaires des grandes villes, et donc des gens misérables, très misérables, des gens souvent de conditions qui volaient, qui chapardaient ou qui commettaient des crimes parce qu'ils avaient volé. Et donc, ça donne une impression de tristesse parce que vous avez, à l'époque, la loi était très dure quand même, vous avez des gens qui sont mis au bagne à 17 ans et demi, quoi, ils étaient encore des gosses, 20 ans. Quand vous voyez une moyenne d'âge de 29 ans, ça situe bien, quoi. Donc, une impression surtout de tristesse. Puis une tristesse approfondie quand on parle des femmes, parce que là aussi, la pénitentiaire, le gouvernement de l'époque a fait venir des femmes, mm-hmm. parce que dans l'optique de la colonisation pénale, pour créer des souches de peuplement, il fallait des femmes. Or, la colonie était très, très pauvre en femmes. Hein. Je rappelle qu'au début des premières années de colonisation, on a même fait venir des orphelines, des pupilles de l'impératrice pour les mariages des colons. Ouais. Et donc, on a fait venir des femmes. Il y a eu 1003 femmes en tout condamnées qui sont venues de métropole et internées à Bouraille et à l'île des Pins pour les reléguer pour se marier avec des forçats. Mais là aussi, des femmes misérables hein, qui sont souvent condamnées pour infanticide très jeunes, en voie de grossesse à 17 ans, qui tuaient leur bébé à la naissance, des femmes qui volaient parce qu'elles étaient pauvres. Voilà. Il y a en fait un constat sociologique de la France du 19e siècle où vous avez une pauvreté terrible dans les campagnes. Ils avaient une population pas formée qui vient des campagnes vers les villes, bien sûr qui n'est pas intégrée et donc qui se livre à des différents délits parce qu'il faut survivre. Mmh. Et donc c'est forcément cette population misérable tombe sous le coup des condamnations. Et puis souvent, malheureusement, il y a une violence qui est liée à ça, à cette pauvreté, à cette... cet état misérable et donc qui les amène à commettre des actes terribles. Mmh. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de la colonisation pénale. Mmh.
Géry de Latière, pourquoi faire tout ça ?
C'est une passion.
Oui, ouais, c'est mais au-delà passion. De la passion.
Il faut être passionné. Et puis je dis aussi qu'il faut... important que les historiens calédoniens livrent une histoire authentique et puis travaillent à la transmission de cette histoire. Mmh. J'ai toujours pensé que les événements que l'on connaît, cette tension sociale, cette incompréhension entre les communautés ici venait du fait que les gens ne connaissent pas leur histoire. Mais le drame lyonnais, c'est que j'ai l'impression quand même que les gens, les Calédoniens notamment, ne veulent pas connaître cette histoire. Peut-être parce qu'ils en ont peur, peut-être, voilà. C'est vrai qu'elle n'était pas enseignée à l'école à l'époque. Hein. Ça commence maintenant, il y a d'énormes progrès en termes pédagogiques, maintenant, dans les circuits scolaires, mais il est important que les historiens calédoniens transmettent une histoire vraie, et que les gens apprennent cette histoire et l'assument. Mmh. Je pense que c'est y a que comme ça qu'on arrivera à se comprendre l'un et l'autre. Mmh. Si je connais pas ma propre histoire en tant que descendant de forçat et tout, hein, je connais pas d'où je viens, qui je suis, qui était mon ancêtre, pourquoi il est venu là et tout. Comment puis-je apprécier l'histoire de l'autre, quel qu'il fût, qu'il soit quelqu'un venu devenu plus récent ou un océanien ou quelconque. Il faut d'abord maîtriser son histoire et puis après pour apprécier celle de l'autre. Mmh. Voilà.
Géry, vous le disiez hier, c'est un peu l'ouvrage de votre vie. Et la suite maintenant ? c'est quoi le prochain ouvrage de votre vie ?
Oh, j'ai beaucoup de travail sur dans l'esprit, on va dire. Mmh. Après, il faut le temps.
Ouais.
Ce qu'il y a, c'est que je suis convaincu, après plus de 40 ans de recherche historique, que malgré que nous ayons une histoire en Calédonie, une histoire récente, hein, comme tout comme le Sali, on fait partie du Nouveau Monde.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup l'histoire de France. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, j'ai beaucoup d'ouvrages sur l'histoire de France, aussi bien l'Ancien Régime que l'époque napoléonienne. Hein. J'ai peut-être 80 bouquins sur l'histoire de Napoléon, du Premier Empire, et de Napoléon III aussi, parce qu'il s'est lié à la Calédonie. Mais Notre histoire est donc très récente par rapport à la métropole aux puissances d'Europe, mais elle est encore très méconnue. Mmh. Donc il y a énormément de travail à faire, et notamment pour les étudiants en histoire de l'université. Mmh. Il y a des pans entiers de notre histoire, parce que ça n'a pas été maîtrisé, parce qu'il n'y avait peut-être pas les archives conséquentes à l'école, ce n'était pas disponible, parce que les jeunes n'ont pas retransmis. Mais en tout cas, il y a du pain sur la planche. J'ai beaucoup d'idées, alors je ne sais pas sur quoi je vais...
Vous parliez que vous aviez envie de parler de communication un petit peu dans vos prochaines recherches.
Oui, c'est-à-dire que là, je vais entreprendre un gros travail pour le musée sur la communication, les voies de communication, ouais. C'est-à-dire les routes, les ponts, mm-hmm. comment ça a été fait, vous voyez, le passage des rivières, mm-hmm. les télécommunications, tout ça, c'est un travail énorme mm-hmm. Qui s'est fait progressivement au fur et à mesure des moyens de la colonie, mais qui... Très, très, très peu connu encore.
Ouais. Une dernière question, Géry Delatière. Une terre pour un crime ne va pas être publiée en librairie. C'est un choix que vous avez fait, que vous assumez totalement.
Tout à fait. C'est un choix délibéré que j'ai fait et que j'assume totalement. Pourquoi ? Parce que, justement, je disais, j'ai voulu faire ce livre, écrire une histoire authentique oui. sur la colonisation pénale, dire ouais. les choses telles qu'elles étaient mmh. réellement. Mmh. Je pense que c'est un besoin et c'est le devoir d'un historien. Mais bien sûr, en reproduisant tous ces crimes qui sont relatés dans la presse d'époque, oui. On relate des choses horribles, sordides, et il y a des descendants de ces gens, certains de ces criminels. Oui. Donc, pour respecter, je dirais pas l'honneur, mais la dignité de ces familles, ou simplement le droit des familles à l'oubli, je ne veux pas le publier en librairie. Parce que maintenant, vous savez, avec les réseaux sociaux, avec la non-maîtrise de la communication de certaines personnes, ce n'est pas bon. Quoi. Donc je vais le mettre dans des structures comme les archives. La bibliothèque universitaire, voilà. Et puis le vendre à des particuliers, des passionnés vraiment intéressés, mais je ne le diffuserai pas en grande diffusion, à cause de ça, voilà.
Bon, le prochain livre de Géry Delatière, c'est pour quand ? C'est déjà en préparation ou vous reposez un petit peu ?
Oui, il y en a beaucoup en chantier, mais bon, entre les romans et les ouvrages historiques, voilà.
Merci beaucoup Géry Delatière d'avoir été avec nous ce matin pour relater cette page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Pour un crime, ce sont 3 tomes que vous avez donc remis hier aux archives de Nouméa. Merci, Géry.
Merci.